Dans le panier de Lisa, Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans la première émission du mois de mai. Alors j'espère que vous avez passé un bon 1er mai, que vous avez eu quelques brins de muguet. Oui, ah, oui on en a eu un, hein. Enfin on en a eu qu'un, hein. Il faut pas... Enfin, oh là, ça a été toute une histoire, on va éviter de vous raconter ça, puisque lutin s'est encore pris les pattes dans le tapis, enfin dans les brins de muguet. Ah bah c'est sûr, quand on va chercher le muguet à midi et demi, c'est sûr que l'on n'en a plus. Ah, presque plus. Ah bah écoutez, hein, voilà. Ah bah le lutin n'est pas toujours très organisé. Alors, depuis quelques jours, après des très très beaux jours, on se prend un peu de flotte, voire des orages, voire à peu près tout ce qu'on peut avoir. Écoutez, on va essayer de faire une petite émission tranquillou sur des livres, hein, ça vous permettra de rester à l'abri et de pouvoir vous instruire, pas forcément, hein, mais en tous les cas, vous détendre. Alors, on va commencer en musique. Oui, il y a une grosse relation entre la chanson et le livre dont je vais vous parler. On va écouter Francis Cabrel avec Les Chevaliers Cathares et on se retrouve juste après pour le premier roman dont je vais parler et que j'ai beaucoup aimé. Oui, bah tu m'étonnes, sinon... Oui, d'accord, ça va. Il est en train de me dire, bah, si tu en parles, c'est que tu les as aimés. Non, pas forcément. N'importe quoi. Paf ! Francis Cabrel, Les Chevaliers Cathares. Il a sniffé le muguet, lui, c'est pas possible.
Les chevaliers cathares pleurent doucement au bord de l'autoroute quand le soir descend. Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment. Fumée des voitures, les cailloux des enfants, les yeux sur les champs de torture et les poubelles devant. C'est quelqu'un du dessus de la Loire qui a dû dessiner les plans. Il a oublié sur la robe les taches de sang. A sculpté dans la pierre qui leur a cassé le corps. Le visage dans la poussière de leur ancien trésor. Sur le grand panneau de lumière raconter aussi leur mort. Les chevaliers cathares y pensent encore. N'en déplaise à ceux qui décident du passé et du présent. Ils n'ont que 7 siècles d'histoire, ils sont toujours vivants. J'entends toujours le bruit des armes et je vois encore souvent des flammes qui lèchent des murs et des charniers géants. Chevaliers cathares pleurent doucement au bord de l'autoroute quand le soir descend. Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment.
Alors on va parler après Francis Cabrel. Oh, j'adore quand on m'applaudit en fait. Oh, l'autre. Tu pouvais pas me prévenir qu'il y avait des applaudissements. Bref. Enfin, bah, écoutez, on fait ce qu'on peut hein, déjà. Alors, on va parler d'un roman qui s'appelle Bellibast de Henri Goujeau. C'est un roman, en fait, bah, évidemment, vous allez voir, c'est un rapport avec les Chevaliers Cathares, en tous les cas, puisque on va qualifier ce roman d'une langueur non monotone et diablement envoûtant. Alors, on est à Cubières, dans l'Aude, en 1305, avec Guillaume Bellibast, en fait, Guilhem hein, Bellibast, il a vraiment existé. Qui doit quitter sa famille, ses parents, sa femme, son fils et ses amis suite à un meurtre qu'il a commis sur un homme qui le pensait être un délateur. Bref, il a un peu le chanchot, le garçon. Il est forcé de fuir pour protéger bien sûr sa famille, lui, fils d'un hérétique, et il va suivre Philippe d'Aileyrac, qui est un parfait, donc un prêtre cathare, d'où le titre de la chanson de... Ah bah écoutez, on turbine hein, au niveau du cerveau. Ah bah les beaux jours, les petites fleurs et tout, ça nous a... Oh oui, ça nous a revigoté. Il va fuir très loin parce qu'en fait, il ne veut pas être retrouvé. Alors, il va devoir épouser les us et coutumes de ces parfaits, de ces êtres qui sont abstinents en tout, qui doivent se conformer à la volonté de cette communauté. Et on va dire que le contexte n'est pas des plus glorieux puisqu'il y a une véritable chasse aux parfaits qui s'intensifie, et Guillaume et son comparse doivent fuir encore à nouveau, toujours sur les routes, etc. Nous, on va suivre Guillaume dans toutes les rites de passage qu'il a à faire pour être ordonné parfait, ce qu'il va être d'ailleurs dans le Tarn. Et là, Henri Goujeau, en fait, nous conte véritablement une histoire. Et on sent que c'est un conteur, d'ailleurs, il faisait des chroniques, je crois, sur France Inter à un moment donné. Il explique sa vie d'avant, son histoire, ses errances, ses doutes, ses envies, ses pulsions, et cet avenir qu'il sait. Nous, on le sait, ce qui lui est arrivé, mais que lui trouve pas des plus vaillantes. Alors, il a vraiment, Henri Goujeau, une plume vraiment érudite, mais fluide. On arpente avec tranquillité, mais avec avidité d'ailleurs, le parcours singulier de cet homme qui oscille entre, on va dire, plusieurs apparences, parce qu'il est parfaitement peu conforme au parfait. Alors, comme parfait, il se pose là, pas du tout, parce que de sa cavalcade en Espagne, par exemple, à son retour en France, il va enfreindre quelques lois de ces êtres abstinents. Voilà. On va le retrouver au fameux mur, avec un grand M, hein, ce qui était la prison de Carcassonne, jusqu'à sa mort d'ailleurs, puisqu'il sera brûlé vif par le même homme qui l'a suivi et traqué pendant des années, qui est l'archevêque de Narbonne, d'ailleurs qui était le seigneur de Cubières, donc le village d'origine de Guillaume. Cet homme, c'est pas vraiment un vrai cathare, au sens propre du terme, ni un personnage historique en tant que tel. Pourtant, comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui a existé, puisque Guillaume Guilhem Bellibast est, on va dire, le dernier parfait cathare d'Occitanie. Ça a été fortement documenté. Il a d'ailleurs réussi une fois à s'échapper des cachots du mur de Carcassonne. C'est un personnage assez fascinant. Il existe beaucoup d'ouvrages, enfin en tous les cas pas mal d'ouvrages sur lui, des romans, des essais, des études, des mémoires d'étudiants, etc. Mais moi j'ai trouvé que c'était un personnage qui était suffisamment romanesque, qui est à la fois aimable et complètement détestable par moments, et j'ai beaucoup aimé suivre ses pas dans ce roman historique qui est vraiment foisonnant, très très bien écrit, très intelligente. Voilà, c'est vraiment un bonheur, et si vous aimez cette période, nul doute que vous connaissez déjà, mais si vous ne connaissiez pas et que vous aimez cette période, allez lire Bellibast de Henri Goujeau. C'est dans un livre de poche, hein, donc c'est tout à fait trouvable un peu de partout. Petite pause musicale. Alors vous allez voir la pause musicale. C'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est Lutin qui m'a dit « Ah, mais moi je trouve pas de chanson en rapport avec cette histoire. » Je dis « Non mais sérieux ?» Donc il m'a balancé de l'accordéon. Bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Ah, c'est bien la première fois que sur une émission de Lisa, vous avez de l'accordéon. On est bien d'accord sur la question. Alors, ne vous trompez pas, hein, on n'est pas le dimanche ou quoi que ce soit. Non, on est lundi matin, un petit peu plus tard que 11h. Youpi youpi, il y a de l'accordéon, ça s'appelle « Sous le ciel de mon Aveyron ». Évidemment, comme il m'a pas mis les personnes qui jouaient, hein, je vous le dirai après. Tu aurais pu me mettre tous les renseignements, hein, passe pour une courbe. Super.
Dans les chansons, l'accent qui s'en va le midi, l'estafiche, le petit vin du pays, sous le ciel de mon Aveyron, dans une petite maison, vivant simplement les beaux jours, sous le beau ciel des troubadours. Quand le matin j'ouvre les volets, quand je vois le soleil éclairer les collines, quand j'entends l'alouette de mai chanter au firmament une chanson divine, quand tu viens tendrement murmurer dans la chambre endormie le plus doux des je t'aime, je me dis que c'est bon de revivre chez toi mon pays une vie de bohème. Sur les coteaux, sur les ballons, je chanterai toujours pour toi une douce romance d'amour. Sous le ciel de mon Aveyron, tendrement ici nous vivrons les plus belles de nos années. Auprès de toi, c'est toujours l'été.
Alors écoutez. Honnêtement, moi j'aime bien, en plus sous le ciel de mon Aveyron, ça me va très bien pour ce dont on va parler, par contre il est incapable de retrouver le titre, alors non mais franchement là ça va plus du tout, hein. Alors moi j'ai cherché un truc, j'ai trouvé un Pierre-André, est-ce que c'est ça, on n'en sait rien, écoutez, veuillez excuser les fans d'accordéon là, ils nous maudissent, tu es au courant qu'ils nous maudissent, ils sont en train de dire, c'est qui ces deux zozos quoi, ah non mais non, quand on se lance quelque part, il faut savoir où on va. Ah mon Dieu, écoutez, on fait ce qu'on peut déjà. C'est compliqué. Ah, faut pas trop lui en demander. Alors, nous allons parler donc d'un livre qui s'appelle Mademoiselle Laïole. Oui, alors ça s'écrit Laïole, mais c'est Laïole. Oui, comme les couteaux. De Daniel Croze, et oui, on est en Aveyron. Comprenez pourquoi le... Ah, voilà, ça, on fait ce qu'on peut. Alors, je sais que ça fait très... Enfin, de nombreuses fois que je vous parle de Daniel Croze. Je fais ma très grande fangirl. Because, après mon Périgord d'amour, le seul département français que j'aime aussi beaucoup, c'est l'Aveyron. Et que dès que je peux présenter les romans de Daniel Croze, je le fais. Parce qu'à chaque fois, il présente un métier, un lieu, une période, des histoires singulières, des personnages très souvent féminins. Mais toujours dans l'optique de faire connaître la beauté et la vie palpitante de l'Aveyron et de cette région-là depuis des siècles. Alors, Là, il pose son roman à l'aïeul, donc pour conter le destin de Mathilde Chauchard, qui a au début de l'histoire 28 ans, qui est jeune, qui est passionnée, qui est assez hors norme pour l'époque, hein, je rappelle, début des années 30, hein, ça se passe entre 33 et à peu près 35-37. Très régulièrement, l'auteur présente une femme d'abord et l'inclut dans l'histoire du terroir, dans la grande histoire, dans un domaine et dans son temps. Alors là, comme je vous l'ai dit, on est vraiment au début des années 30. Mathilde est en train de reprendre les rênes de la coutellerie familiale, donc à l'aïeul, suite à l'accident de son papa qui a eu un genre d'AVC. Alors évidemment, qui de nos jours ne connaît pas les couteaux l'aïeul, les vrais, hein, pas les trucs fabriqués en Chine. Et cette jeune femme, en fait, Mathilde, doit rendre un couteau que vient lui commander un membre influent politique local, parce que le président de la République de l'époque doit venir dans l'Aveyron pour la première fois et on lui demande de faire un couteau assez exceptionnel. Et là, son talent et son sens des affaires, il faut bien le dire, et sa modernité va lui faire gagner une certaine notoriété auprès des spécialistes et va attirer certaines commandes de toutes les brasseries, etc., qui sont tenues à l'époque, hein, par des Auvergnats et des Aveyronnais à Paris. Mais bien sûr, vous le savez, quand on réussit, il y a aussi la jalousie qui se mêle, notamment d'autres couteliers, mais d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait que ça soit une femme qui exerce ses fonctions, non seulement à la fabrication, puisqu'elle manie l'acier, etc., mais aussi au développement, et bien sûr dans ce milieu exclusivement à l'époque fait masculin, ça commence à friser. Alors, en plus, elle est sportive, elle est très moderne, elle est très avant-gardiste, elle est prête à en découdre avec ses concurrents, elle se laisse pas du tout, elle s'en laisse pas compter, et certains la pensent un peu trop féminine et fragile, pour commencer à s'imposer. Alors Daniel Croze, lui, pose un regard sur le terroir, ce terroir fascinant mais rude, hein, hostile de temps en temps avec les conditions météorologiques, dans l'Aubrac, qui n'aide ni Mathilde à lutter contre elle-même, mais ni contre ceux qui voudraient qu'elle trébuche. Et tout ça se mêle avec la découverte des commerciaux. Elle rencontre un commercial qui l'aide et dont elle va tomber et réciproquement amoureuse. Mais il y a toujours ce problème de délation, de jalousie qui arrive par derrière. Alors elle essaye de développer et de l'autre côté, il y a des gens qui essayent de lui casser les pattes, etc. Et malgré, je dois le dire, de temps en temps, quelques passages qui sont un peu longs, mais quand on aime Daniel Croze, ce n'est pas long. Ça peut être long pour des personnes qui ne sont pas très fans de descriptions et de paragraphes sur un objet ou sur une atmosphère. On sent tout l'amour qu'il a pour sa terre, pour ses destins aveyronnais, pour ce coin de terre qu'est l'Aubrac, et surtout pour ce métier qui est toujours intéressant et qui montre aussi que le bien travailler, l'artisanat est très très important, y compris encore maintenant. Le travail bien fait, le travail tout simplement, à un moment donné, peut payer. Et toutes ces femmes qui ont contribué à réhabiliter aussi la place des femmes dans la société, place qu'elles avaient déjà occupée par le passé, on le rappelle, hein, mais qui ont été occultées et non pas effacées, ont été occultées, que ce soit par des jaloux, des misogynes ou des gens qui n'avaient pas de cerveau, hein, tout simplement. Mais ces femmes-là ont lutté. Et à l'instar de l'histoire de Mathilde, qui est un peu... Alors moi, je suis pas très fan des fins très très heureuses, tout est bien, qui finit bien. Donc vous pouvez... Moi, j'ai lu l'épilogue, mais j'aurais pu m'en dispenser. Mais franchement, voilà, j'ai bien aimé la vision qu'avait le romancier sur sa terre, sur ce métier, sur les difficultés, sur l'artisanat en général, et sur, bien sûr, ce département qui est très cher à mon cœur, à part le Périgord, évidemment, vous vous en doutez. Voilà, donc ça s'appelle Mademoiselle l'aïeul de Daniel Croze. C'est toujours chez Rouergue, hein, très bonne maison d'édition du du coin, hein, de l'Aveyron, et qui publie des très 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 bons romans, des très beaux livres aussi d'art, etc. Vraiment, ils œuvrent pour leur terroir et on ne peut que les féliciter avec des très belles prestations, hein. Les couvertures sont magnifiques, les finitions sont belles, enfin bref, c'est pas du travail d'amateur. Allez, on va passer à une petite musique, oui, oui, alors là, il n'y a pas grand-chose de commun, sauf un mot dans le titre. Ah bah écoutez, on a fait ce qu'on a pu. C'est U2 qui chante Where the Streets Are No Name, et puis on se retrouve juste après pour le troisième roman.
Shelter in the poison.
Alors après U2 avec Where the Streets Are No Name, on va parler de Vine Street. écoutez. De Dominic Nolan. Non, pas le... Ah bah. Alors c'est un roman, attention, qui prend son temps et du temps. Et il en est question tout au long de ces 700 pages, presque 700 pages. On découvre une atmosphère, un quartier et assez électrique. Hein, c'est Soho de avant, évidemment, qui à l'époque est peuplé d'une myriade de personnages entre délinquants, trafiquants, voleurs, noctambules, filles de joie et policiers. Policiers blancs comme neige ou pas. Voilà, et d'ailleurs, on va cheminer aux côtés d'un flic du quartier qui fraye autant avec le milieu et les prostituées qu'avec les gars de son commissariat. C'est un flic qui est assez étonnant, assez attachant, qui fait tout le sel de ce roman, mais qui n'est pas blanc comme neige. Alors, Léon, puisqu'il s'agit de lui, va enquêter malgré le classement. Dès le premier meurtre initial, on le classe comme affaire courante, machin. Lui, il va trouver assez rapidement un développement puisqu'il y a d'autres meurtres qui vont se produire et qu'il va se lancer sur la piste d'un tueur qui est à la fois insaisissable et mais diablement pervers et intelligent, sans qu'on sache véritablement qui est qui. On le surnomme le brigadier, mais c'est tout ce qu'on sait. Et au-delà des apparences, Léon, on le découvre comme un réel paradoxe sur papate. Alors, je vous le dis tout de suite, il est alcoolo, il est violent, il est à la limite de tout, y compris de ses relations avec les corrompus, avec les filles de soie, avec des gamines du coin. En Suisse, il est un peu attaché à certaines filles de la rue et aussi à un vétéran de la Grande Guerre. Ça aide absolument pas à lui trouver des circonstances atténuantes. Je vous dis, il est aussi détestable que ce qui peut être attachant. Même si on a envie de lui en coller une de temps en temps, on lui trouve un truc. C'est-à-dire qu'on s'attache à ce qu'il est en train de faire et à la enquête qu'il mène, malgré le fait qu'on cautionne pas ce qu'il fait. Et ses sentiments vont le mener à enquêter durant des décennies sur tous les meurtres qui sont commis par ce fameux brigadier. On est donc avant la Seconde Guerre mondiale, sous le Blitz, après la Première Guerre mondiale, de Londres à Birmingham. C'est vraiment un roman qui fait partie de ceux qui demandent une attention particulière, une lecture un peu soutenue, parce que la narration est très très habile. Elle nous emmêle, il faut le dire, les pinceaux, si on saute une ligne, tant les méandres de cette enquête sont destinées en fait à perdre les plus distraits, on a bien compris. Les chapitres sont courts, très nombreux, les personnages ne sont pas là pour faire de la figuration, ils ont tous quelque chose. Il y a des petites piques qui sont sorties de temps en temps sur évidemment la perfide Albion, sur enfin en tous les cas les ennemis de la perfide Albion, les misogynes, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, surtout. D'ailleurs, c'est très étonnant, mais je me suis attachée à certains personnages secondaires comme Billy ou Mark, par exemple, et bien sûr tout le contexte historique. Parce que il y a aussi, dans ce roman, à chaque détour d'indice, à chaque événement calendaire, une mesure de la difficulté de la vie à chaque époque où on est. C'est-à-dire qu'on voit la difficulté de la vie, de la place des uns des autres dans la société, celle des femmes, celle des homosexuels, le poids du regard sur certains policiers, sur les policiers en général, sur la police, sur le gouvernement, sur les voyous, mais sur aussi les habitants qui endurent toutes les conditions de vie, alors que ce soit la vie ordinaire, comme la vie pendant le Blitz, etc. Et Dominic Nolan plonge tout le temps dans une narration sur le fil du rasoir. Il nous transporte véritablement dans un tourbillon entre les mœurs, la police, l'histoire avec un grand H, des galeries de portraits absolument fascinants, une espèce de gouaille londonienne très souvent. Alors moi j'ai trouvé que la traduction de temps en temps flottait pour certaines choses, mais après je ne l'ai pas lu en anglais, donc peut-être que ça flotte aussi, mais c'est pas mal. Et puis il y a cette intensité assez rare aussi dans l'enquête et dans la pavasse que ça peut être. Moi, c'est un roman que j'ai pas voulu lâcher avant d'avoir toutes les réponses, même si on n'a pas tout, mais on en a pas mal, beaucoup. Et puis, on traverse presque 70 ans de vie sur quatre périodes bien définies, hein, puisque je vous rappelle, on est dans les années 30, après on est sous le Blitz, après on est en 1963, et notamment d'ailleurs à Birmingham, et ensuite on est en 2002. Voilà, donc ça donne vraiment envie de déambuler dans ces endroits, dans ces lieux, avec un personnage, je vous dis, qui se prendrait bien une baffe ou deux et que vous détesteriez avoir comme camarade, mais qui est un bon enquêteur et qui vous propulse dans une espèce de roman assez noir. C'est pas un thriller parfait, c'est vraiment un roman noir. Donc ça s'appelle Vine Street de Dominic Nolan. Évidemment, c'est en poche, hein. Je crois que c'est chez Rivage Noir. Donc si ça vous a intéressé, notez-le. Allez, on fait une petite pause musicale. Ça n'a pas trop de rapport là, le lutin, mais bon. Écoutez, voilà. Michel Sardou, Je ne suis pas mort. Ah oui, pardon. Ah ouais, non, ça n'a pas de rapport, mais oui, le titre. Oh là, oui, oh, il est allé chercher loin là. Je ne suis pas mort, je dors. Là, tu as creusé, c'est le muguet, hein, c'est l'odeur du muguet. C'est toujours pas, le cerveau est toujours pas. Oula, il n'est pas irrigué le cerveau. Allez, Michel Sardou, Je ne suis pas mort, je dors. Et on parle après d'un roman, d'une suite de saga.
Ne m'enterrez pas encore, je ne suis pas mort, je dors. Et n'encombrez pas ma mémoire de vos regrets, de vos histoires, je dors. Rangez-moi dans vos souvenirs, mais je n'ai pas fini d'en finir. Je dors, gardez vos larmes et vos cris, que l'on m'ait aimé ou haï. Je dors, si par hasard, sait-on jamais, j'avais un ami qui m'aimait. Tant pis qu'il m'oublie, je dors. Et des lumières, combien dure une éternité, combien de fois faudra-t-il faire la même route pour arriver, combien de lunes à disparaître, combien d'hommes encore à renaître, en attendant. Je ne veux pas être piétiné, je dors. J'aimerais qu'un océan rugisse, tous ces chevaux sur des rochers. Je dors, et ne couvrez pas ma mémoire de chrysanthèmes, de femme en noir, je dors. Si quelque part, sait-on jamais, j'avais un ami qui m'aimait, tant pis qu'il m'oublie, je dors.
je dors. Je dors.
C'était donc Michel Sardou avec « Je ne suis pas mort, je dors ». Et nous, on va dire que les morts ne chantent pas. Oui, puisque c'est le 11e tome du département V qui, cette fois-ci, est écrit à six mains, puisque Jussie Adler-Olsen a accepté que une des écrivaines et journalistes danoises qui s'appellent Lynn Holm et Stine Bolther reprenne tout simplement son bébé. Puisque, comme vous le savez peut-être, au tome 10, Jussie Adler-Olsen avait annoncé que sa saga était terminée. Donc, je dois avouer que depuis l'annonce du 11e opus, j'ai été hyper méga excitée de savoir ce qu'il en avait fait et ce qu'elle allait en faire. Mais j'étais aussi inquiète, parce que enfin, je suppose que comme vous, si vous avez aimé une saga littéraire et que l'auteur emblématique cède une partie de son travail pour continuer une histoire, que nous, on pensait avoir fini, et c'était très bien clôturé dans 7 mètres carrés d'ailleurs, on a toujours des doutes. Bon, alors dès les premières pages, je vous lis tout de suite, j'ai plus eu de doute sur le fait que, un, Jussie Adler-Olsen tenait encore les rênes de son département V, mais différemment, parce qu'il y avait cet ajout, ce surplus et ce plus qu'apportaient les idées de Lynn Holmes et de Stine Bolther, qui a apporté une touche particulière, une autre vision, on va dire, du département V. Alors, dès le début, on le sait, et on connaît le cheminement de l'enquête à venir, puisque, en fait, on sait qui a fait quoi et qui va faire quoi, mais on accompagne immédiatement les personnages. On retrouve Karl Mock, donc, qui est à la retraite, qui profite de sa vie, de sa femme, qui se tient absolument éloigné de tout, et qui a décidé d'écrire des romans sur les enquêtes du département V. Alors, il est en pleine promotion de son premier roman. Il va être abordé par une femme qui lui révèle avoir enregistré un message datant de quelques années, qui figurait sur le répondeur d'une ligne d'urgence qui avait été fermée, sans que personne ne sache que la ligne était fermée. Donc, les personnes qui voulaient appeler ce numéro d'urgence tombaient sur un répondeur persuadé d'être avoir un interlocuteur de l'autre côté de la ligne, ce qui n'était pas le cas depuis de nombreuses années. Alors, malgré ses envies, Karl de rester en retrait, alors il faut dire que Karl Mock écrit les romans du département V, c'est-à-dire que son roman qui sort s'appelle Miséricorde, le premier de Jussie Adler-Olsen, très drôle. Il n'a pas trop envie d'y replonger, mais bon, il va aller quand même voir ses deux anciens camarades, donc Assad et Rose, qui tiennent encore le département, qui sont de nouveau à la cave, retour aux premiers amours, et qui gèrent un peu comme ils peuvent, hein, l'arrivée d'une enquêtrice qui est franco-danoise, qui s'appelle Elena Henry, qui est assez mystérieuse, voire inquiétante. Ah bon, si, quand même, un peu. Alors, l'histoire de base, c'est celle d'un homme qui est supposé suicidé et de sa femme qui l'a tenté de tuer. Et toute cette origine va rejaillir dans le présent, comme souvent hein, dans les polars nordiques et surtout d'ailleurs très souvent la base du département V. Et le service va enquêter, fouiller le passé de ces personnages pour accéder à un groupe de jeunes enfants qui faisait partie d'une chorale à la fin des années 80 dans un lycée, un collège-lycée, enfin dans une école. De nos jours, on revoit ces enfants qui sont devenus donc des adultes avec des grandes responsabilités dans la société danoise. Et au fil de l'enquête du département V, le vernis va s'écailler. Alors, s'écailler plus que ça, on parle de maltraitance, on parle de pression, on parle d'intimidation, on parle de groupes soudés autour d'un personnage qui a un tempérament assez fort, qui rivalisait entre les humiliations, les mensonges collectifs et l'impact sur la vie des plus faibles de cet établissement. Et donc, le tome 11 explore non seulement les non-dits, mais les mensonges, l'intérêt de rester soudé pour cacher les vérités, et devant toutes les manœuvres que le meurtrier va mettre en place, Mais malheureusement, petit à petit, ça se fissure. Le vernis s'écaille, comme je disais, ça se fissure l'édifice et il tient de moins en moins bien. Alors, il est impossible pour moi de continuer à vous expliquer ce qui se passe, en dévoiler beaucoup trop. Je vous dirais juste que les chapitres sont courts, sont rythmés, sont toujours très efficaces. On sent bien l'admiration des deux journalistes romancières envers le département V. Il y a toujours l'humour de Jussi Haller-Olsen, Dieu merci. Et il y a toujours cette tension habituelle de la saga, avec les à côté des personnages, leur vie privée, leurs états d'âme, etc. C'est ce qui fait le plus. Et on comprend bien d'ailleurs que le département V, tout de suite, part sur une autre direction. Elle est plus moderne, elle est plus féminine. Bon, toujours avec le côté, côté pourri au royaume du Danemark, hein, sauf son roi, c'est toujours si beau. Ah bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Ah bah là, je fais la midinette, on est d'accord. Alors, je dois avouer, le lutin se marre. Hein. Dès qu'il me voit admirer Frédéric du Danemark, il est mort de rire. Hein. Il me dit non, mais c'est pas vrai. Bah, si, il est sexy, ce garçon. Enfin, cet homme, parce qu'il a mon âge. Je dois avouer que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé me replonger dans le département V. J'ai aimé me plonger dans cet opus. J'ai aimé les allers-retours entre les années 80 et de nos jours. J'ai même aimé le côté très antipathique de certaines personnes, de certains personnages, alors qu'on a même d'ailleurs largement plus d'empathie envers le meurtrier, hein, ce qui est quand même assez étonnant. Tout le monde cache quelque chose. Le pulse s'imbrique doucement, sûrement. Alors même si ça n'a rien de révolutionnaire, c'est souvent les trucs comme ça, les polars nordiques, ça n'a rien, c'est pas quelque chose qui va vous clouer sur le fauteuil, mais l'ambiance est là. L'humour est là, les rebondissements sont là, les personnages emblématiques sont là, les nouveaux personnages arrivent, se fondent dans la masse et les salopards sont de retour. Super. Alors, je peux vous le dire tout de suite, je reprendrai avec grand plaisir un nouveau tour. Vivement l'opus 12. Ah bah écoutez, si elles peuvent nous faire 2-3 opus de plus, ça va être un bonheur. Toujours sur le même rythme et la même façon. Il faut pas pousser trop... on va dire cette histoire-là, et franchement, ce fut un grand plaisir. Voilà, écoutez, on va passer une petite musique qui est de Ricci e Poveri, qui s'appelle Questo Amore, et après, on s'en va quelque part. Ah bah, vous imaginez bien où on s'en va. C'est tellement facile, ça. Franchement, là, s'ils ne trouvent pas le pays, je ne sais plus quoi faire, moi. Ricci e Poveri. Non, c'est pas... Ah non, mais c'est pas...
ballare questo amore, qui fa caldo, usciamo un po', questo amore, io domani non lavoro, io nemmeno, la tua bocca sulla mia, fatica andare via, cominciava così, così con niente. La giostra che va
e la testa mi gira,
racconta la giusta.
Su di me è vero, ti voglio bene.
Bon, ben on était en Italie, je pense que tout le monde avait bien compris le principe. Donc on va parler d'un roman court qui s'appelle Terrasse à Rome. Ah bah écoutez, hein, voilà. De Pascal Quignard. Alors on est avec un certain môme, le graveur, qui attention est un personnage fictif mais diablement vivant, très très bien documenté, qui est né en 1617 à Paris. Alors c'est un élève qui a eu des formateurs très qualifiés, qui va atterrir à Bruges pour faire son apprentissage, où il va tomber fou amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Nanny, qui est la fille d'un des juges électifs où il est apprenti. Elle est promise à un autre, mais ça ne les empêche pas d'entamer une liaison aussi érotiquement passionnée que courte. Et un jour, alors qu'ils sont en plein ébat amoureux, ils sont surpris par le dit fiancé qui va jeter au visage de môme de l'eau forte et qui va le défigurer. Alors Nanny, qui est un peu échaudée par l'histoire, alors très légèrement brûlée à la main, elle en fait une montagne, mais bon, en gros, il n'y a rien de dramatique, va rejeter son amant, en fait, parce qu'elle le trouve, comme elle lui dit, assène deux fois ou trois fois dans le roman, qu'il est désormais hideux. Voilà, en fait, en gros, on a bien compris que elle n'était avec lui que pour la beauté du garçon. Ah, oh là là. Alors, lui, il fuit par désespoir amoureux, et il s'aperçoit rapidement que malgré le fait qu'il apprend toujours et qu'il est... dans sa perspective d'être un des meilleurs graveurs, lui manque énormément. Alors, l'auteur, en fait, sait merveilleusement bien écrire, et c'est un court roman qui nous plonge, en fait, dans cette fin de la Renaissance, où tous les artisans, les artistes, les créateurs, etc., étaient fascinés absolument par l'Italie, étaient attirés à Rome comme du miel, des abeilles sur du miel. À cette époque-là, il voyage beaucoup puisqu'il court les contrats, les mécènes, et môme est de cela. Donc on le suit, il fuit, mais autrement bien sûr, puisqu'en fait il fuit pour se cacher puisqu'il est défiguré, il fuit parce qu'il est malheureux d'avoir été éconduit, il fuit parce qu'il est meurtri non seulement dans son cœur mais dans sa chair, et il va se réfugier dans ce qu'on appelle les angles entre eux, c'est-à-dire ces endroits où se cachent les amoureux déçus, les monstres sur pattes et tous les artistes, on va dire, ratés ou qui se pensent ratés. Et l'auteur, donc Pascal Quignard, évoque et décrit très précisément les œuvres que môme a fait, c'est-à-dire môme le graveur. Ça va de ses gravures de saintes à ses gravures très licencieuses, et ça fait aussi écho à un autre livre qui s'appelle Tous les matins du monde. Alors cette terrasse, on va dire, sur Rome, Et juste touché par cette vie-là, ces artistes, cet art, ce travail, cet amour du travail, l'amour aussi d'un homme ou d'une femme, ou, la peine, les eaux, que ce soit les eaux fortes ou les eaux qu'on voit passer sous ses fenêtres, les peintures, les gravures, les ombres, les lumières. Et en fait, j'ai vraiment lu avidement l'itinéraire de ce graveur, avec sa peine de cœur qui transporte comme une espèce de poids absolument importable. Et bien sûr, ce fragment de lui qui reste quand il sombre, parce que quelquefois ça lui arrive, mais il a ce côté de, bah, d'artisan qui romient. Moi j'ai adoré me perdre dans cette vie sentimentale, affective, et les crochets fréquents, et les détours qu'il fait pour saisir bah, en fait, sa nuit, garder cette nuit qui le meurtrit pour faire des très belles œuvres derrière, celle qui rend jaloux, celle qui rend triste mais créatif. Donc franchement c'est un très très joli roman, très court, très beau, très très érudit, qui s'appelle Terrasse à Rome de Pascal Quignard. Franchement allez-y, faites-vous un week-end à Rome, voire quelques heures, hein, parce que c'est très très court, donc ce sera sûrement que quelques heures à Rome. Alors, c'est déjà la fin de l'émission, et contrairement à d'habitude, on vous dira pas ce qu'on a lu au mois on va lire au mois de mai. Bon, sachant qu'on fait deux lectures communes, enfin moi j'organise deux lectures communes qui sont 1793 de Niklas Natochdag, que j'avais lu en 2019, que j'avais absolument dévoré, adoré, suradoré, toute la saga d'ailleurs jusqu'à 95, et Le Grand Maul qui m'a été demandé dans un des classiques. Voilà, donc je vous expliquerai ce qu'on je vais lire au mois de mai plus tard et je vous dirai ce que j'en ai pensé au début du mois de juin. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Nous, on s'occupe de vos petites oreilles, vous vous occupez de vous, de vos proches et de ceux que vous aimez. On se quitte avec Michael Jackson Thriller. Oui, il y a un film qui s'appelle Michael à l'affiche actuellement. Et on se dit, avec le lutin, autant frissonner. Ah ouais, non, on s'en lasse pas de Thriller quand même. Oh, quel clip à l'époque. Quel clip à l'époque. Allez, ciao. À la semaine. Ah non, pas la semaine prochaine. Oh, qu'est-ce que je dis? C'est quand? Je me rappelle plus. Fin du mois? Fin du mois. 25. Oh là là, on va vous laisser 2 semaines et demie, presque 3 semaines. On s'en fout, vous avez des ponts, des fériés, des machins, vous allez nous oublier. Ah ben, on se retrouve pour Pentecôte. Oh joli. Oh joli coup là. On parlera de ciné, d'autres choses pour Pentecôte. Bon, on sera férié, du coup, vous serez obligé de nous écouter. Ciao, Michael Jackson. Ciao.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Ha 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 ha